Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. L'histoire secrète des fleurs est un ouvrage de vulgarisation scientifique publié en 2019 par François Parsi, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de biologie végétale. Le livre examine une transformation majeure de la vie terrestre, apparition des plantes à fleurs, puis expansion rapide de ce groupe dans les écosystèmes. Cette réussite évolutive avait conduit Charles Darwin à parler de mystère abominable, tant son origine et sa diversification semblaient difficiles à expliquer. Parsi présente les avancées qui permettent de mieux cerner ce problème, sans prétendre que toutes les incertitudes sont levées. Son propos associe histoire évolutive, fonctionnement de la reproduction végétale et recherche contemporaine sur les gènes qui construisent une fleur. Le livre vise ainsi à corriger une perception décorative ou passive du monde floral. Il montre que la fleur est une structure biologique issue de contraintes, de variations et de relations avec son environnement. L'approche reste accessible tout en donnant une place concrète aux méthodes et aux acteurs de la recherche. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le mystère de Darwin comme point de départ de la botanique évolutive, le fil directeur du livre est la question posée par le succès des angiospermes, nom donné aux plantes à fleurs. Durant une grande partie de l'histoire terrestre, les végétaux ont existé et se sont diversifiés sans fleurs, comparables à celles qui dominent aujourd'hui de nombreux paysages. Or, les plantes à fleurs sont apparues relativement tardivement, il y a environ 150 millions d'années, selon la présentation de l'ouvrage. Puis, elles ont colonisé une grande variété de milieux. Cette expansion rapide paraissait difficile à concilier avec une vision simple et graduelle de l'évolution, ce qui explique la formule célèbre de Darwin. Parsi utilise ce problème pour rappeler que l'évolution ne consiste pas seulement à établir une succession de formes. Elle exige aussi de comprendre quelles innovations rendent possible une diversification, nouvelles structures reproductrices, nouvelles interactions écologiques et nouvelles possibilités de variation. Le livre ne réduit donc pas la fleur à un simple ornement. Elle devient un objet central pour étudier la manière dont une innovation anatomique peut modifier durablement les rapports entre organismes. Cette entrée par un problème historique donne un cadre intellectuel clair aux découvertes modernes, tout en préservant la part de questions ouvertes qui demeure dans l'étude de l'origine des fleurs. Deuxièmement, la fleur comme dispositif de reproduction et de diversification, le livre insiste sur le fait que la fleur doit être comprise par sa fonction reproductive. Couleur, forme, odeur et organisation des organes ne relèvent pas seulement de l'esthétique humaine. Ces caractéristiques participent à la rencontre des cellules reproductrices, à la protection des structures en développement et, selon les espèces, à attraction ou au guidage des animaux pollinisateurs. Le vocabulaire volontairement vif employé autour de la manipulation ou de la sexualité sert à déplacer le regard. Les fleurs sont des systèmes actifs, façonnés par la sélection et par leurs relations avec autres êtres vivants. Cette perspective aide à comprendre pourquoi une très grande diversité florale a pu apparaître. Quand la reproduction dépend de signaux, de formes ou de calendriers distincts, les populations peuvent suivre des trajectoires évolutives différentes. Il ne faut pourtant pas en conclure que chaque trait floral possède une intention ou une stratégie consciente. Le livre parle de dispositifs issus de l'histoire évolutive, non de décisions végétales. Cette distinction est essentielle pour une vulgarisation rigoureuse. Elle permet de conserver le pouvoir évocateur des exemples tout en reliant les formes étonnantes des fleurs aux mécanismes biologiques de transmission et de variation. Troisièmement, des gènes aux organes, comment se construit une fleur. Une contribution importante de l'ouvrage consiste à rendre visible le niveau de recherche qui se situe entre la grande histoire de évolution et observation ordinaire des pétales. La formation florale dépend de programmes génétiques qui organisent progressivement les tissus et contribuent à différencier les organes. Pour étudier ces processus, les biologistes examinent des gènes, des protéines et des modifications de développement. Ils comparent également des individus présentant des variations parfois obtenues ou identifiées comme mutants dans des organismes modèles. Une anomalie de forme peut alors devenir un instrument de connaissance si une modification génétique transforme ou empêche une partie de la fleur. Elle renseigne sur le rôle possible du gène concerné. Parsi ne présente pas la génétique comme une explication isolée de tout le vivant. Les gènes agissent dans des réseaux au cours de étapes de développement et dans une histoire évolutive plus longue. Cette prudence évite une lecture déterministe. La fleur observée est le résultat de coordination cellulaire précise, mais aussi de variations accumulées dans les lignées végétales. En exposant ces méthodes, le livre relie une question familière, comment une fleur prend forme, à un travail expérimental souvent invisible pour le public. Quatrièmement, la recherche scientifique comme enquête collective est révisable. L'histoire secrète des fleurs présente les progrès de la botanique moderne comme une enquête plutôt que comme un inventaire de vérité définitive. La question de l'origine des plantes à fleurs a mobilisé des naturalistes, des spécialistes de l'évolution, des généticiens et des biologistes du développement. Les avancées résultent de comparaisons, de dissections, de nouvelles techniques et de discussions sur l'interprétation des données. Cette dimension est particulièrement utile pour comprendre ce que signifie résoudre partiellement un problème scientifique. Le mystère évoqué par Darwin est moins opaque parce que les mécanismes de développement et les parentés évolutives sont mieux étudiés. Mais cela ne signifie pas que chaque étape de origine florale est connue avec certitude. Le livre valorise ainsi la précision des questions autant que la séduction des réponses. Il montre aussi que le choix des modèles de recherche influence ce qui devient observable. Des plantes étudiées en laboratoire permettent de tester des hypothèses sur les gènes et les organes, tandis que les comparaisons avec autres espèces replacent ces résultats dans une diversité réelle. Cette articulation entre expérimentation et histoire naturelle distingue une démarche scientifique solide d'une explication simplifiée. Le lecteur découvre moins un savoir figé que les moyens concrets par lesquels la connaissance se construit et se corrige. En dernier lieu, changer notre regard sur les végétaux qui structurent le monde humain, le livre part d'une évidence quotidienne, les fleurs nourrissent, décorent, attirent le regard et accompagnent souvent les pratiques de séduction ou de célébration. Mais il invite à dépasser cette proximité culturelle afin de mesurer leur rôle biologique et historique. Les plantes à fleurs ne sont pas un arrière-plan immobile. Elles contribuent largement au paysage terrestre, aux ressources alimentaires et aux réseaux qui associent végétaux, insectes et autres animaux. Comprendre leur histoire permet donc de relier la curiosité botanique à des enjeux plus vastes de diversité du vivant. Le propos de Parsi ne semble pas être un manuel de jardinage ni une défense militante de l'environnement. Sa force est de fournir les bases intellectuelles qui rendent ces sujets moins abstraits. En montrant que la reproduction, le développement et les interactions écologiques sont liés, il explique pourquoi la diversité florale ne peut être réduite à une collection de belles espèces. Cette approche a également une valeur critique. Les métaphores humaines appliquées aux fleurs peuvent faciliter la lecture, mais elles ne doivent pas masquer les mécanismes matériels étudiés par la biologie. Le lecteur est ainsi conduit vers une admiration plus informée, fondée sur la complexité évolutive des plantes plutôt que sur leur seule apparence. En conclusion, l'histoire secrète des fleurs convient aux lecteurs curieux de biologie, de botanique et de évolution, y compris si leur formation scientifique est limitée. Il peut également intéresser les jardiniers, les enseignants et les amateurs de nature qui souhaitent comprendre ce que recouvrent réellement les formes, les couleurs et la diversité des fleurs. Son bénéfice principal est de faire passer le lecteur d'une familiarité visuelle avec les végétaux à une compréhension plus structurée de leur reproduction, de leur développement et de leur histoire évolutive. La lecture donne aussi des repères pour interpréter les annonces scientifiques portant sur les gènes, les mutants ou les organismes modèles, sans faire croire que la génétique offre seule une réponse totale, par rapport à de nombreux livres consacrés aux fleurs. Centré sur l'identification, la culture ou la beauté des espèces, celui de François Parsi se distingue par son ancrage direct dans la recherche en biologie végétale. Il ne sépare pas le plaisir d'observer les fleurs de la question exigeante, de leur apparition et de leur fonctionnement. Le cadre du mystère de Darwin apporte une cohérence historique à cet exposé, tandis que l'expérience de chercheur de hauteur rend les méthodes scientifiques plus concrètes. Il faut toutefois aborder le livre comme une introduction informée à une enquête en cours, non comme une résolution définitive de toutes les origines. Cette retenue renforce sa valeur, la science y apparaît à la fois accessible, précise et ouverte. Si vous souhaitez soutenir François Parsi, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.